Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.
Bonjour, notre invité Yves Assouline, il est diplômé de l'Institut National Polytechnique de Grenoble. Il exerce une activité de conseil en recrutement et formation en entreprise depuis plus de 15 ans. Il est passionné par les relations humaines et il vient de sortir un livre qui s'intitule « La course incessante des êtres humains ». C'est un livre qui est paru aux éditions Attract. Yves Assouline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques,
merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous appelez la course incessante des êtres humains?
Alors en fait, si j'ai choisi ce titre, à l'origine c'est en lisant Schopenhauer qui avait dit « Voilà les hommes, une fois remontés, ils sont comme des horloges, ils n'arrêtent pas de marcher ». Et l'idée, c'était de dire qu'en fait, l'être humain est tout le temps en activité. Et souvent, moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi il était tout le temps dans cette activité. C'est pour ça que d'où le terme de titre course incessante, pour exprimer justement qu'on est tout le temps, on a tout le temps des choses à faire, que ce soit pas forcément des obligations, ça peut être aussi du plaisir, mais on a tout le temps besoin d'être en mouvement.
Voilà. Dans votre livre, vous vous proposez en fin de compte une relativisation des événements. Et votre livre s'ouvre sur un conte de Lao Tzu. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce petit conte. Vous pourrez rapidement comme ça nous le raconter?
Bien sûr, avec plaisir. Eh bien écoutez, le conte de Lao Tzu, c'est l'histoire d'un paysan qui possède un cheval blanc extraordinaire, parce qu'il est très beau, qui suscite la jalousie des gens les plus riches du pays. Mais chaque fois qu'on lui propose une fortune, parce que ce paysan n'est pas vraiment riche, le vieil homme lui répond ben, « Pour moi, c'est plus qu'un animal, c'est un ami et je ne veux pas le vendre. » Et un jour, le cheval disparaît et les gens du village viennent le voir et disent « Tu vois, tu as été idiot sur cette histoire parce que c'était prévisible qu'on te volerait ce beau cheval. » Et lui, il répond « N'exagérons rien, disons simplement que le cheval n'est plus dans l'étable, mais c'est tout ce qu'on peut dire. » Et effectivement, 15 jours plus tard, le cheval revient. Mais il revient, il n'avait pas été volé, il était simplement allé se promener dans la prairie, et il revient avec une douzaine d'autres chevaux de son escapade qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et les gens lui disent, ben, finalement, vieux paysan, tu avais vraiment raison, tu as eu de la chance. Et lui, il répond, n'exagérons rien, on ne sait jamais ce que l'avenir va nous réserver. Et quelques temps après, son fils unique, il essaye de dresser ses chevaux sauvages et l'un d'eux le fait tomber et le piétine et il devient estropié. Et les gens viennent le plaindre, c'est vraiment à plaindre. Et le paysan répond encore une fois, ils n'auront rien, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et quelques temps après, une guerre très sanglante éclate et tous les hommes du village sont enrôlés dans l'armée, par conscription, et sauf l'invalide, sauf le fils du paysan qui est invalide, et les gens lui disent « Tu as de la chance, paysan, encore une fois », et lui, il répond « N'exagérons rien ». Vous voyez, donc ça montre un petit peu, cette histoire, elle montre que les événements, on ne peut jamais savoir, même s'ils nous paraissent positifs ou négatifs dans un premier temps, la vie peut les retourner et faire qu'un malheur peut devenir, pas un bonheur, mais peut-être quelque chose de positif et inversement.
Voilà, mais ça rejoint un petit peu la sagesse juive. Hein. Vous connaissez l'histoire de ce rabbin qui voulait rentrer dans une ville et on ne l'avait pas laissé rentrer. Et finalement, à chaque fois, il disait, c'est pour le bien. Alors, on ne lui avait pas donné de repas, il a été obligé de dormir toute la nuit dans la rue. Il avait un coq, à l'époque, il n'y avait pas de réveil matin, c'était pas comme maintenant. Le coq a été dévoré par une bête sauvage. Et pendant qu'il dormait, la lumière s'est éteinte, il est resté dans le noir total. À chaque fois qu'il était confronté à un malheur, il disait, c'est pour le bien. Et finalement, le matin, il se réveille quand même, parce qu'il est resté complètement immobilisé toute la nuit. Il se rend compte qu'il y avait des pillards qui étaient rentrés dans la ville et qui avaient tué les habitants, qui avaient saccagé la ville, qui avaient tout pillé. Et finalement, il a dit, j'avais raison de dire que c'est pour le bien, parce que si j'avais été hébergé, il m'aurait peut-être tué les pillards. Je crois que vous connaissez cette histoire, peut-être.
Non, je ne connaissais pas cette histoire, mais effectivement, c'est exactement la même type d'histoire, oui, tout à fait.
Voilà,
la même philosophie.
Preuve que les grandes sagesses universelles se rejoignent, même si elles disent les choses différemment.
Tout à fait.
L'habillage est différent, mais le fond philosophique reste le même.
Mais c'est un peu ça, l'idée, c'est vrai que ça rejoint la sagesse juive, c'est-à-dire qu'il faut prendre la vie comme elle est en bien, on ne sait jamais à l'avance ce que ça va être, et chaque chose, quelle qu'elle soit, il faut savoir la prendre positivement, ce qui est bon dans chaque chose.
Mais finalement, est-ce que l'éducation ne joue pas un rôle important dans cette course incessante des êtres humains, hein, pour reprendre le titre de votre bouquin, parce que depuis tout petit, on nous dit, il faut bouger, il faut agir, si tu fais rien, rien ne viendra, on a tous été éduqués un petit peu comme ça, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où il faut peut-être un petit peu arrêter, prendre le temps de réfléchir, laisser pousser l'herbe?
Ben c'est un petit peu ce que je dis dans le livre précisément, justement, c'est de dire on est souvent, depuis la naissance, embrigadé dans une sorte de course où on nous dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, on n'a pas le temps de se retourner. Et en fait, on a besoin quand même de... Parfois, on arrive à la fin de sa vie. Dans le livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, je raconte l'histoire de Bronnie Ware qui a écrit un livre sur les... qui a étudié, c'est une infirmière australienne qui a étudié les personnes en fin de vie. Elle était infirmière de soins palliatifs et elle a demandé aux personnes qu'est-ce qu'ils regrettaient le plus à la fin de leur vie. Et l'idée principale qui ressortait, c'était de dire j'ai fait ce que les autres attendaient de moi et pas ce que vraiment j'avais envie. J'ai tout le temps, il y avait cinq grands regrets, mais en gros, ce qu'ils disaient, ces regrets, c'était de dire que finalement, on a couru tout le temps, on a tout le temps été en train de courir, mais on n'a pas pris le temps de s'occuper de soi, de s'occuper de ses amis aussi, elle parle de ses amis, de s'occuper de ses sentiments, d'exprimer ses sentiments autour de soi. Et finalement, on est passé un petit peu à côté de notre vie. C'est un peu ce qu'il en ressort et ça rejoint un peu ce que vous dites. Oui.
Voilà, mais quand on réfléchit, on est un petit peu tous logés à la même enseigne, hein, parce que la société exige des choses de nous et entre ce qu'on exige de nous et ce que nous sommes vraiment, il y a quand même une différence. Mais est-ce que toute philosophie, toute psychologie n'est pas basée là-dessus, en fin de compte? Et la réconciliation avec soi-même, est-ce que c'est pas un peu ça?
Ben c'est ça qui est difficile à faire en fait aujourd'hui et peut-être même avec ce qu'on a vécu dans le confinement, les gens s'intéressent à ça, se posent cette question de se demander quels sont les buts essentiels de leur vie, parce que finalement on fait beaucoup de choses, c'est ce que j'explique aussi dans le livre, on fait aussi beaucoup de choses par compromission pour pas vexer les autres, pour pas blesser, pour pas faire de vagues, et finalement parfois on passe un petit peu à côté de des choses qu'on a vraiment envie de faire, et en fait il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de et en ce sens-là finalement la religion juive est bien faite puisqu'elle propose le Shabbat qui a un temps d'arrêt un jour par semaine. Les autres religions le proposent aussi, hein, n'exagérons rien, mais c'est un jour où vraiment les gens ne font rien et réfléchissent sur eux-mêmes, où on peut se demander pourquoi on a fait ça cette semaine, pour qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire dans notre vie et quelles sont les motivations essentielles. C'est ça la vraie question. Et ça, on n'est pas toujours clair de le savoir parce que on fait tellement de choses, on a tellement d'obligations qu'on finalement, si on prend un papier, un crayon et qu'on essaye de lister, on s'aperçoit qu'on passe beaucoup de temps à faire des choses qui ne nous plaisent pas vraiment et qu'on n'a pas réfléchi comment faire, comment les limiter, parce qu'on sera toujours obligé de faire des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent moins, mais parfois on n'a pas toujours le temps, on court tellement qu'on n'a pas le temps de se poser ces questions.
Voilà, alors finalement, à force de vouloir faire plaisir aux autres et de vouloir donner le change, on finit par perdre complètement le sens de sa vie.
C'est un peu ça, et c'est pas forcément de l'égoïsme de penser à soi, parce que quand vous êtes heureux, que vous êtes épanoui, les autres, ça se ressent sur les autres, vous le faites rejaillir sur les autres, sur votre entourage, et vous pouvez apporter de la joie. Donc c'est pas forcément de l'égoïsme de penser à soi, c'est aussi faire des choses qu'on aime, c'est aussi aider les autres d'une certaine manière. Voilà, j'avais lu une phrase qui disait un arbre qui n'est pas bien arrosé ne donnera pas des bons fruits. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Et Vassouline, est-ce qu'en fin de compte, on peut dire que tout est affaire de discernement? Il y a des moments où on a des obligations professionnelles, familiales, il faut agir d'une façon bien précise, mais peut-être il y a des moments un petit peu où il faut un petit peu relâcher l'attention.
Oui, voilà, il faut savoir faire la part des choses entre les choses qui sont prenantes, qui sont des obligations et celles où on a besoin de se retrouver soi-même. Mais en même temps, c'est pas si simple que ça parce que vous pouvez très bien allier les deux, c'est-à-dire que, par exemple, si vous estimez que le temps que vous passez avec vos enfants n'est pas agréable parce que vous n'avez pas le temps de vous occuper d'eux, parce que les activités que vous faites avec eux ne vous plaisent pas, vous pouvez réfléchir à dire, ben, plutôt que de consacrer des petits moments par-ci, par-là, où ça m'apporte rien, j'ai pas de joie, je vais consacrer plutôt peut-être 3 heures tel jour, et au lieu de faire des activités qu'on n'a pas prévu, faire des imprévus, finalement, on fait pas des choses sympas, je vais peut-être y réfléchir, et puis on va peut-être organiser une sortie à tel endroit, etc. Alors, ça sera des moments qui seront peut-être moins importants, moins longs, il y aura moins souvent, mais finalement, au final, on perdra pas plus de temps, donc, et on aura plus de plaisir, et on s'occupera mieux des autres. Donc, vous voyez, c'est pas que penser qu'à soi, et c'est penser différemment, en fait, voilà.
Vous faites référence dans votre livre à Maslow, hein, ce grand psychologue et la pyramide des besoins. Alors, il nous apporte un éclairage important dans notre vie.
En fait, j'ai cité Maslow parce que mon livre parle justement d'essayer de déterminer ce qui nous motive dans la vie, en partant des motivations fondamentales. Il y a plusieurs sortes de motivations, des besoins fondamentaux qu'on doit satisfaire, qui sont par exemple la conservation de soi, qui est se nourrir, respirer, et dormir. Et puis des motivations qui sont comme la sécurité aussi, c'est-à-dire ne pas se faire agresser, la motivation sexuelle, la motivation... c'est la reproduction, la motivation de la perpétuation, c'est s'occuper des enfants, l'instinct maternel. Ça, c'est les motivations de base que les animaux avaient à l'origine. Mais l'intelligence de l'homme, le développement de l'intelligence, a fait qu'il y a de nombreuses autres motivations qui sont apparues. Et j'ai cité Maslow parce que Maslow, justement, la base de sa pyramide, c'est les 4 motivations fondamentales dont je viens de parler, qui sont ce qu'il appelle les besoins physiologiques. C'est la première base de sa pyramide. La deuxième base étant la sécurité, le besoin de sécurité que j'ai cité aussi. Voilà. Et là, il cite ensuite des motivations qui apparaissent, dont je parle après en expliquant qu'elles apparaissent plus avec le développement de l'intelligence, qui sont le besoin d'estime de soi, le besoin d'appartenance, qui est d'amour aussi. Ça, ce sont des choses qui sont développées parce que notre esprit s'est développé.
Alors, Yves Assouline, nous arrivons au terme de cet entretien. Donc, je voudrais tout de même rappeler que vous êtes diplômé de l'Institut National Polytechnique de Grenoble et vous exercez une activité de conseil en recrutement et formation en entreprise depuis plus de 15 ans. Vous êtes passionné par les relations humaines. Hein, vous avez écrit plusieurs livres. Et là, le dernier en date, donc, « La course incessante des êtres humains ». C'est un livre qui est paru aux éditions Attract. On peut réécouter cet entretien sur notre site rcnradio.info. Yves Assouline, je vous remercie.
Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.